Chapitre 33. Geyser Service.
Le boulot le plus minable que j'ai vu depuis que j'ai quitté l'école,
grommela le chef mécanicien.
Mais est-ce que vous pouvez faire de mieux dans le temps qui nous était imparti?
Le pipeline de fortune s'étirait sur 50 mètres de roches étincelantes incrustées de substances chimiques vers le cratère encore en repos d'Old Faithful, où il se terminait par une espèce d'entonnoir rectangulaire. Le soleil venait juste d'apparaître au-dessus des collines, et déjà le sol tremblait légèrement, alors que les réservoirs souterrains, ou sous-aléiens, de la comète sentaient les premières chaleurs. À l'affût dans le salon d'observation, Ewood Floyd avait du mal à croire que tant d'événements s'étaient déroulés depuis 24 heures. Pour commencer, le vaisseau s'était divisé en deux factions rivales, la première conduite par le capitaine, et l'autre, forcément, par lui-même. Ils restaient froidement polis l'un envers l'autre, mais s'il n'y avait pas eu de véritables échanges de coups, il avait découvert qu'on lui avait attribué le surnom de Floyd Suicide. Il n'appréciait pas tellement. Personne, cependant, n'avait rien de sensé à reprocher à la manœuvre Floyd Jolson. Cette appellation aussi était injuste. Il avait insisté pour que tout l'honneur en revînt à Jolson, mais personne ne l'avait écouté, et Mikhailovitch avait même ironisé « Vous n'êtes donc pas prêt à en partager la responsabilité si ça tourne mal ?» Le premier essai aurait lieu dans 20 minutes, quand Old Faithful saluerait l'aube à sa manière, avec un peu de retard. Mais même si cette idée marchait, même si les réservoirs se remplissaient d'eau pure au lieu du liquide vaseux que prédisait le capitaine Smith, la route vers Europe était loin d'être ouverte. Les réactions des passagers demeuraient un facteur sans doute mineur, mais non négligeable. On leur avait annoncé qu'ils seraient de retour chez eux dans 15 jours. Maintenant, à leur surprise et dans certains cas à leur désespoir, ils devaient affronter la perspective d'une mission dangereuse à l'autre bout du système solaire. Et même si cette mission réussissait, aucune date ferme n'était plus prévue pour leur retour sur Terre. Willis était effondré. Tout son futur emploi du temps était bouleversé. Il errait en marmonnant des menaces de procès, mais personne ne lui accordait la moindre attention. Greenberg, en revanche, exultait. Il allait maintenant pouvoir se replonger réellement dans les affaires spatiales. Et Mikhailovitch, qui passait presque tout son temps à composer bruyamment dans sa cabine très mal insonorisée, était presque aussi enchanté. Il ne doutait pas un instant que la diversion allait l'inspirer et le hausser à de nouveaux sommets de créativité. Maggie M. se montrait philosophe.
« Si nous avons la possibilité de sauver des vies, disait-elle en fixant Willis d'un air éloquent, comment pourrions-nous refuser ?»
Quant à Eva Merlin, Floyd avait fait un effort particulier pour lui expliquer la situation et il découvrit qu'elle la comprenait remarquablement bien. Et ce fut Eva, à sa profonde stupéfaction, qui posa la question à laquelle personne ne semblait avoir pensé.
« Et si les Européens ne veulent pas que nous atterrissions, même pour sauver nos amis ?»
Floyd la regarda d'un air parfaitement ahuri. Encore à présent, il lui était difficile de l'accepter comme une personne réelle, humaine, et il ne savait jamais si elle allait lui sortir une réflexion profonde ou une stupidité.
« C'est une très bonne question, Eva. Croyez-moi, j'y songe. »
Il disait la vérité. Jamais il ne pourrait mentir à Eva Merlin. Ce serait, en quelque sorte, un sacrilège. Les premières volutes de vapeur apparurent au-dessus de la bouche du geyser. Elles s'élevèrent dans le vide en spirales irrégulières et s'évaporèrent rapidement sous le soleil brûlant. Old Faithful toussota encore comme pour s'éclaircir la gorge. Une colonne d'un blanc de neige, étonnamment compacte, de cristaux de glace et de gouttes d'eau jaillit alors rapidement vers le ciel. Bien que prévenus, les spectateurs s'attendaient d'instinct à la voir se recourber et retomber, mais naturellement, elle n'en fit rien. Elle continua de monter, en s'élargissant à peine, jusqu'à rejoindre la vaste couverture nuageuse de la comète. Floyd remarqua, non sans satisfaction, que le pipeline était agité de tremblements, signe que l'eau s'y précipitait. 10 minutes plus tard, un conseil de guerre se réunit sur la passerelle. Le capitaine Smith, toujours d'une humeur massacrante, se contenta de saluer Floyd d'un bref signe de tête, laissant la parole à son second, vaguement embarrassé.
« Ma foi, ça marche fort bien, c'en est même étonnant. À cette allure, nous remplirons nos réservoirs en 20 heures, mais il nous faudra peut-être sortir et mieux ancrer le tuyau. »«
Et les saletés ?» demanda quelqu'un.
Le second exhiba une bulle transparente pleine de liquide incolore. « Les filtres ont retenu toutes les impuretés, jusqu'à quelques microns. Pour plus de sûreté, nous allons filtrer deux fois en passant d'un réservoir à l'autre. Pas de piscine, hélas, jusqu'à ce que nous ayons dépassé Mars. » Cela provoqua quelques rires, on en avait grand besoin, et même le capitaine se détendit un peu.
Nous allons d'abord essayer les moteurs à la poussée minimale pour nous assurer qu'il n'y a pas d'anomalie opérationnelle dans l'H2O de Halley. S'il y en a, nous abandonnerons complètement l'idée et rentrerons chez nous avec la bonne vieille eau de la Lune.
Un ange passa, pendant lequel tout le monde attendit que quelqu'un parle. Le capitaine Smith rompit le silence gênant.
Comme vous le savez tous, cette idée ne me plaît pas du tout. En fait...
Il s'interrompit brusquement. Tout le monde savait qu'il avait envisagé d'envoyer sa démission à Sir Lawrence, un geste quelque peu ridicule tout de même dans ces circonstances.
Mais d'autres éléments sont intervenus dans les dernières heures, reprit-il. Sir Lawrence a approuvé ce projet, à condition bien sûr que des difficultés fondamentales ne surgissent pas de nos essais. De plus, et c'est là une surprise que je ne m'explique pas plus que vous, le Conseil spatial mondial a non seulement donné son approbation, mais a exigé que nous effectuions ce déroutement en prenant à sa charge tous les frais. Comprenne qui pourra. Mais...
Il regarda d'un air sceptique la petite bulle d'eau que Heywood Floyd avait haussée vers la lumière et secouait doucement.
Mais j'ai encore un souci. Je suis un mécanicien, pas un chimiste, bon Dieu. Cette eau paraît propre, d'accord. Mais quelle sera son action sur le revêtement des réservoirs ?
Floyd ne comprit jamais ce qui lui était passé par la tête. Une telle témérité n'était pas du tout dans son caractère. Peut-être était-il simplement agacé par ce débat et voulait-il en finir. Ou peut-être estimait-il nécessaire de secouer un peu l'honneur du capitaine. D'un mouvement vif, il fit sauter le bouchon de la bulle et, la portant à sa bouche, avala environ 20 centilitres de comète.
« Voilà votre réponse, capitaine, » dit-il quand il reposa la fiole.
« Ça, » déclara le médecin du bord une demi-heure plus tard, « c'était un des actes les plus stupides que j'ai jamais vus. Vous ne savez donc pas qu'il y a des cyanures et des cyanogènes et Dieu sait quoi encore là-dedans ? »
Bien sûr que si. Répliqua Floyd en riant. « J'ai vu les analyses. Rien que quelques parcelles sur 1 million. Pas de quoi s'inquiéter. Mais j'ai tout de même eu une surprise, » ajouta-t-il gaiement.
« Ah oui ? Laquelle ? » ?»«
S'il était possible d'expédier ça sur la Terre, on ferait fortune en le vendant sous le nom de purgatif de Halley. »